la grande table en direct de Strasbourg. Bonjour et bienvenue à tous en direct de la librairie Kléber à Strasbourg où la grande table prend le relais des matins avant de passer la main après 18h au grain. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, alors que le grand débat national se poursuit, que voulons-nous, vu d'ici, quel peuple pour quelle démocratie ? Alsacien depuis 40 ans, le philosophe Jean-Luc Nancy, auteur notamment de La vérité de la démocratie et de la communauté désavouée, nous rejoindra à partir de 12h55. Mais d'abord, un enfant du pays, il a grandi à Sainte-Marie-aux-Mines, dans le Haut-Rhin, étudié à Strasbourg avant de gagner Paris. Il a fondé le festival C'est dans la vallée dans sa région. Son dernier album s'appelle Good et vient de donner son nom à un film de Patrick Mario Bernard qui le montre en famille. Il sera en concert à Sausheim le 28 mars. Rodolphe Burger est notre invité avec nous pour nous présenter sa part alsacienne. Il sera rejoint au fil de cette première partie par l'architecte Pascal Richter. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
Prochaine station, Homme de fer.
Voilà, descendez là du tramway et rejoignez-nous entre les livres de la librairie Kléber où vous attend Rodolphe Burger. Bonjour.
Bonjour.
On n'est pas très loin de la cathédrale de Strasbourg où vous aviez donné en novembre 2016 un concert hommage à Mahmoud Darwish, le cantique des cantiques, un souvenir fort pour vous dans cette ville. En 2000, à la demande de Strasbourg, vous réalisez l'installation sonore du tram avec votre guitare et des voix d'ici, non professionnelles. Là, il y a une langue, il y a des accents qui nous disent tout de suite où on est. Pourquoi vous les aimez tant ?
J'aime en général un goût pour les accents, pas seulement l'accent alsacien. Dans ma vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, un autre accent qui est l'accent belge, donc que j'aime beaucoup aussi. Puis, tous les particularismes sont intéressants. La voix, c'est drôle que vous passiez cet échantillon là du tramway, parce que c'est la voix qu'on entend, c'est celle de Michel Krieger, qui était à l'origine en fait de la commande. En fait, on m'a donc proposé de travailler sur le tramway, de faire une installation sonore, et moi j'ai proposé de travailler sur la signalétique, ce qui ce qui a un peu dérouté au départ les services techniques. Parce que normalement, c'est leur domaine, leur rayon. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Et de faire entendre la voix des habitants, mais aussi la voix de certaines personnes connues. On entend la voix de Jean-Luc Nancy, mais c'est pas signalé, mais c'est lui qui annonce les comptades. Et là, c'est Michel Krieger, avec son accent magnifique.
Alors, on est descendu à la bonne station.
C'était l'homme de fer.
Ça va pour rejoindre
l'homme
ici.
L'homme de fer, c'est juste ici, c'est juste à côté.
La ligne D du tramway de Strasbourg qui a été prolongée récemment à Kehl en Allemagne, deux arrêts supplémentaires. Vous vous êtes occupé aussi des.
Ah non, d'ailleurs, je lance un appel. Pourquoi ne m'a-t-on pas appelé ? J'aimerais bien m'en occuper.
On peut peut-être les faire là, maintenant, tout de suite.
Tout de suite, allons-y.
Est-ce qu'on a des jolis accents dans la salle ? Qui pourrait s'y prêter ?
On a même des Allemands d'origine qui pourraient nous le faire en allemand. Mais je me suis occupé par contre de celui de Paris, récemment, et on entend votre voix.
Oui, mais ça, fallait pas le dire. Vous en avez retenu qu'un, en plus, comme quoi j'étais pas très bonne. Mais voilà pour l'accent parigot, en tout cas, on retrouvera ça dans le tramway parisien. Ici, ce serait quoi ? Orschule, Lager, et quel Rathaus vous le faites ?
Ici, ouais. Orschule.
Non, pour les deux stations supplémentaires.
Ah, à toutes, moi je veux les faire toutes.
Bon, d'accord, vous voulez pas. Ça va dans le bon sens tout ça, que le tramway se prolonge à Kehl aujourd'hui, que l'Alsace ne tourne plus le dos à l'Allemagne et qu'à travers ce projet, ce circuit du tramway, cette amitié-là aussi, cette relation entre l'Allemagne et l'Alsace se conforte pour vous.
Tout ce qui va dans ce sens me paraît vraiment formidable. Symboliquement, évidemment, c'est quand même extraordinaire qu'aujourd'hui un tramway. Le tramway de Strasbourg aille jusqu'à Kehl. Après, il faut voir aussi. On m'a dit que ça permettait surtout aux Strasbourgeois d'aller faire leurs courses là-bas. Si c'est ça, c'est pas très bien pour les commerçants d'ici. Mais la symbolique de la chose est évidemment importante. Et en effet, vous disiez, l'Alsace, c'est vrai, elle a souvent et longtemps tourné le dos à l'Allemagne. Et là, j'ai l'impression que c'est en train de bouger. On voit qu'au niveau des institutions culturelles, on trouve à la tête d'institutions importantes des gens, des Allemands. Moi, je suis attaché à une région. Pour moi, c'est vraiment. On parle de la région des trois frontières à propos de l'extrême sud de l'Alsace, là où la Suisse, l'Allemagne et la France se touchent. Mais d'une certaine manière, c'est toute l'Alsace qui est la région des trois frontières.
La même année, en 2000, vous allez créer, Rodolphe Burger, le festival C'est dans la vallée, chez vous, à Sainte-Marie-aux-Mines, dans les Vosges alsaciennes, avec une programmation ouverte et libre, rock évidemment, mais aussi avec de l'électro, du jazz, tout ça avec des artistes qui sont plutôt hors promo, qui sortent un peu des circuits classiques, sont passés depuis par là, par chez vous, Dominique A, mais aussi les Pétasses d'Alsace, Rubinsteiner, mais aussi Rachida, Jacques Higelin, mais aussi Roger Siffer, Bachung, Jean-Louis Murat, Fred Poulet. Pourquoi vous êtes lancé là-dedans, dans ce projet qui demande un sacré engagement, on imagine aussi.
Oui. C'était une manière de rendre quelque chose d'une certaine façon à cette vallée. Bon, donc, je suis originaire de cette vallée et je l'ai, comme il se doit, quitté à 16 ans, 17 ans. Mais il se trouve que j'ai été amené à y revenir, pas pour m'y réinstaller, mais pour y retourner, notamment pour répéter avec mon groupe Catonoma de l'époque. On répétait dans la ferme d'une tante paysanne. Sur les hauteurs de Sainte-Marie-aux-Mines, et c'est de cette manière-là que j'étais amené à y revenir. Et puis un jour, un élu local m'a fait savoir que quand on interrogeait les jeunes de Sainte-Marie, régulièrement, ce qui revenait, c'était qu'ils avaient envie qu'il y ait un concert de Catonoma. Donc c'est le vrai point de départ. Je me suis dit, ben oui, bien sûr, il faut faire un concert là. Et notre tourneur parisien, pour lui, Sainte-Marie-aux-Mines, c'était pas sur la carte. Donc on l'a organisé nous-mêmes dans une magnifique chapelle en bois qui est réputée pour son acoustique, pour la musique de chambre. Et on a fait un concert électrique avec Catonoma. Et autour de ça, on a bâti en minuscule, on appelait ça festival. Il y avait déjà des installations d'artistes, il y avait du cinéma, il y avait des concerts dans les bars. Et en germe, c'était déjà le festival. C'est vrai qu'ensuite... J'ai poursuivi cette chose-là parce que c'est une manière, oui, aussi d'inviter, bien sûr, mes amis artistes, de leur faire découvrir cet endroit. Et quelque chose se passe dans cette rencontre-là. C'est clair que quand Jacques Higelin décrivait à la télévision Sainte-Marie-aux-Mines comme une sorte de paradis, il disait « c'est là que je veux aller, si tout va mal, je vais aller me planquer sur les hauteurs de Sainte-Marie-aux-Mines. » Il a fait une chanson même dédiée à Sainte-Marie. Pour les gens de Sainte-Marie, qui pour certains se pensent comme les damnés de la terre, parce que c'est quand même un endroit qui a beaucoup souffert historiquement, qui a été successivement un Eldorado à l'époque des mines d'argent, puis de l'industrie textile, et qui est quand même sur le carreau du développement depuis une quarantaine d'années. Donc d'entendre ça, tout d'un coup, ça fait un choc salutaire, il me semble. Voilà. Donc c'est un peu... ça que je cherche à travers le festival.
Parce que pour beaucoup de monde, et pas simplement pour les tourneurs parisiens, Sainte-Marie-aux-Mines n'est pas sur la carte, n'existe pas sur une carte. Donc c'est aussi ça. Est-ce que vous pensez qu'à travers la culture, l'art, la musique, on peut redonner de la visibilité et du sens à des territoires qui sont aussi délaissés, impensés, invisibilisés?
Oui, absolument. C'est vraiment l'enjeu, en fait, je pense, de ce festival, mais... Et d'autres choses, hein, parce qu'il se passe pas que ce festival là-bas. Hein. Il y a des événements considérables. Il y a une bourse aux minéraux qui est la deuxième au monde. Peu de gens le savent, mais c'est impressionnant. 30 000 personnes soudain envahissent cette vallée au mois de juin tous les ans. Mais c'est vrai, j'étais à l'époque, au début du festival, il n'était pas soutenu. Et puis un jour, je suis allé voir le président de la région, Adrien Zeller, pour lui expliquer le projet et lui dire quelles étaient mes intentions. Moi, j'ai pas vocation à organiser des festivals, donc pourquoi je faisais ça là-bas précisément? Et il a été formidable, c'est-à-dire qu'il a dit oui, il a confessé que il a dit oui, on a laissé tomber cette vallée, il faut qu'on se rattrape. Donc il y avait une conscience aussi des dangers qui sont liés à l'abandon des territoires. C'était une ville de tradition socialiste, un élu d'extrême droite est venu prospérer là-bas, désignant cet endroit comme un endroit favorable. Donc moi j'ai assisté d'une certaine manière aussi parce que j'ai grandi là-bas, j'ai gardé un lien toujours avec cet endroit. J'étais aux premières loges d'une certaine manière pour pas mal de choses, y compris des choses qui se passent en ce moment.
Et aujourd'hui ce festival, il faudrait qu'il s'agrandisse ou qu'il meure peut-être. Vous pensez parfois à transformer l'endroit. Vous évoquiez à un moment en petite Villa Médicis du rock avec des artistes en résidence. Est-ce que vous avez le soutien aujourd'hui des élus pour ça? Est-ce qu'ils y voient toujours une opportunité ou est-ce que ça reste un peu une marotte, un truc de parisien
non,
qui chercherait à s'implanter?
Non, force d'obstination. Bon, on a comme quand en fait. On a aussi des soutiens. Il y a bien des gens ont été sensibles au festival et à travers le festival aussi plus largement ce projet. La Villa Médicis du rock, c'était un peu une manière de comme ça d'accrocher l'attention. Mais c'est en cours, c'est en train de se réaliser petit à petit dans le studio, dans cette ferme dont je parlais tout à l'heure, maintenant qui est en train de devenir un lieu de où on produit de la musique, mais pas seulement.
Alors le festival est né dans les pas d'un album projet. On n'est pas des Indiens, c'est dommage. C'était son titre. Autour d'une langue et d'une culture, un patois. Cet album est réalisé avec Olivier Cadio et vous allez nous en reparler. On écoute un extrait de L'Est dans la vallée.
Vous savez, les gens avaient la vie dure, mais quand il s'agissait de s'amuser, alors voyez qu'il y a des empereurs aussi. Et aussi, vous voyez, moi je me rappelle pas. Et ils allaient pas au diable, Robert, comme si dans la vallée, oui. Si dans la vallée, oui. Je suis des joyeux pour jouer des tours. Parce que c'est bon, il aime bien s'amuser. Si dans la vallée, oui. Si dans la vallée, oui. Petite ferme, une ferme. Bien souvent, et c'était tous des petites fermes. Dans une ferme, bien souvent, et c'était tous des petites fermes. Si dans la vallée, oui.
I've been there. Moonshiner. For 17 long years. I've spent all my money on whiskey and beer. I'd go to some holler and set up my still. And if whiskey don't kill me, then I don't know what will.
See dans la vallée, see dans la vallée. Dans une ferme, bien sûr.
Quel mélange improbable avez-vous réalisé et réussi là, Rodolphe Burger, qui était presque inimaginable pour vous?
Oui, c'était très improbable, j'avoue, d'en venir un jour à faire un disque entier, au fond, avec mes voisins. Puisque là, la voix qu'on entend, c'est celle de Roger Humbert, qui était mon voisin de la Petite Guèvre, à Sainte-Marie-aux-Mines, qui est un éminent représentant de la communauté welche. Cet accent qu'on vient d'entendre, c'est l'accent welche. Et je suis parti avec Olivier Cadio, mon ami écrivain, qui j'avais fait bien sûr déjà des chansons, etc. On est parti dans une véritable aventure, c'est-à-dire que là, on répondait à une sorte de commande de Roger Siffert, qui organisait à l'époque un festival qui s'appelait Babel, dédié aux langues minoritaires. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit: Rodolphe, tu habites dans la vallée de Sainte-Marie, tu sais qu'il y a des Welches là-bas. Ça, je savais qu'il y avait des Welches, puisque j'avais des copains de classe qui avaient cet accent étrange, pas alsacien du tout. Et j'ai tout de suite dit oui, tout de suite appelé Cadio. Je me suis dit ça va lui plaire. On est parti en expédition comme ça sur le et vrai, c'est vrai que ça a débloqué quelque chose. C'est-à-dire que jusqu'ici avec Catonoma, on vivait bien sûr, on répétait là-bas, mais presque comme des clandestins. Enfin, il y avait tellement pas de lien dans ce qu'on faisait avec, je dirais, évidemment pas avec le folklore alsacien musicalement. On n'était pas très enracinés. nos racines imaginaires étaient plutôt américaines ou lointaines en tout cas. Et tout d'un coup de mixer là le chant que je chante, c'est un folk song des Appalaches quoi, c'est le chant du bouilleur de crue. Et donc mixer ça avec la voix de Roger Humbert, enfin tout d'un coup quelque chose devenait possible là-bas. Et c'est bah, le nom du festival, c'est dans la vallée, vient de ce morceau de Roger Humbert. Donc c'est lui qui l'a baptisé.
En 20 ans, on entend les liens qui sont développés entre les habitants et le festival, entre les habitants et vous, la manière dont vous vous êtes réenracinés à ce territoire que vous aviez quitté à un moment. Vous avez cité le nom de Roger Siffert, c'est peut-être un nom qui veut dire beaucoup pour vous tous, peut-être un peu moins pour nous tous, je ne sais pas quel est exactement le vous et le nous, mais vous allez nous le présenter. Puis il y a une autre figure, oui. C'est Monsieur Choucroutry, non ?
Oui, c'est Roger ça, Siffert. Roger Siffert, c'est qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est notre Alan Stivell à nous. donc lui, bah, oui, j'ai des souvenirs de concerts qu'il faisait dans les années 70, il passait à Sainte-Marie-aux-Mines. C'est le chanteur régionaliste qui chante en alsacien, et la choucrouterie est un lieu dédié à l'expression alsacienne en musique et pas seulement en musique.
Il y a un autre lieu que vous citez souvent, Rodolphe Burger, c'est la laiterie.
Oui.
Ça fait partie aussi des places fortes de la musique aujourd'hui à Strasbourg.
Oui, bien sûr, c'est là, ça, de musique actuelle, comme on dit. Et c'est vrai qu'on a une histoire avec cette salle. Enfin, l'architecte musicien, le bassiste de Catonoma, c'est lui qui a dessiné à l'époque cette salle, enfin, qu'on attendait depuis longtemps. Avec Catonoma, on a beaucoup milité pour qu'une telle salle existe. Elle manquait à Strasbourg, et voilà. Depuis, c'est une des salles, je pense, qui propose le plus de concerts en France.
Et un dernier visage, un dernier nom d'un Strasbourgeois qui compte beaucoup pour vous, c'est Tommy Ungerer, le dessinateur, oui. Les Trois Brigands, on connaît.
Tommy Ungerer, pour moi, c'est la figure la plus extraordinairement sage, je sais pas, qui incarne tout ce que je peux aimer de l'Alsace. Enfin, c'est non seulement un très très grand artiste, mais c'est un personnage unique et qui, je dirais, ils se font rares les Tommy Ungerer, malheureusement, de nos jours, parce que moi, j'ai l'impression d'en avoir côtoyé dans mon enfance, j'ai des souvenirs de vendanges dans les villages avec des Tommy Ungerer, quoi. Et maintenant, ils se font rares parce que je dirais qu'il y a un esprit de sérieux qui a gagné l'Alsace, malheureusement. Et moi, je suis obligé d'aller en Bretagne pour retrouver cette espèce de malice, cette façon, cette impertinence, cette joie aussi. Ungerer, enfin, bon, ici, tout le monde le connaît, mais il faut l'entendre, quoi. Il faut n'importe laquelle des émissions de radio, tous ces entretiens, cet accent aussi formidable, et cette parole, quoi, qui est magnifique.
Alors, elle n'a pas forcément l'accent, mais elle fait partie de ceux ou de celles qui pensent la ville aujourd'hui. Vous avez choisi d'inviter Rodolphe Burger, l'architecte Pascal Richter, à nous rejoindre. Elle va venir s'asseoir autour de cette table. En attendant, France Culture, je vous rappelle qu'on est en direct de Strasbourg, en Alsace, et qu'il est midi 20.
Au terminus.
Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Par prudence, veuillez surveiller vos sacs et effets personnels. Mesdames et messieurs, en raison d'un incident technique, nous ne sommes plus en mesure de poursuivre notre voyage. Veuillez quitter ce tramway et emprunter le bus qui passera à cet arrêt dans quelques minutes. Merci de votre compréhension.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Je me suis permis d'en faire un jingle avec Marie Placet. On s'est dit, on va reprendre les sons. Ça va nous aider à bâtir notre émission. Rodolphe Burger, Pascal Richter vient de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour.
Avec son agence et ses deux associés installés ici à Strasbourg, elle vient d'être récompensée de l'équerre d'argent. C'est un peu le Goncourt des architectes pour un centre de consultation et de soins psychiatriques de Kelle en Moselle, enveloppé de béton, travaillé par l'artiste Grégoire Espel. Le bâtiment vitré laisse entrer la lumière et permet au regard de s'échapper sur la nature environnante, sans que la vie du centre soit observable de l'extérieur, sans qu'elle soit perturbée par ces regards, ces vues qui viendraient du dehors. Un mot peut-être, Rodolphe Burger, pour nous présenter Pascal Richter, avant d'en venir à ce projet.
Pascal est une amie, mais elle est donc architecte, c'est une merveilleuse architecte, non pas alsacienne d'origine, parce qu'elle est allemande et normande à la fois, mais très inscrite ici à Strasbourg, très, très aimée aussi des gens qui la connaissent ici. On s'est rencontrés au festival, je crois bien, c'est dans la vallée, croisés aussi en Bretagne, à l'île de Va, et puis bien des fois, parce qu'elle fait partie d'un groupe d'amis dont fait partie ma sœur, architecte elle aussi, un groupe formidable. J'ai eu la chance quelquefois d'être admis à des réunions qu'elles font entre elles, et je suis ébloui par ces femmes et ce qu'elles font, et Pascal, voilà.
Il y a des réunions, notamment celle d'un groupe informel dont vous êtes membre, Pascal Richter. Ce groupe s'appelle Vasisdas. Alors c'est à la fois le nom de cette petite fenêtre qui peut s'ouvrir sur les toits des appartements ou des maisons, mais ça veut dire en allemand aussi qu'est-ce que c'est. L'idée, c'était justement de réfléchir ensemble avec des disciplines très différentes, des professionnels très différents au devenir de la ville de Strasbourg où vous êtes installé. Quelle fenêtre vous semblait-il urgent d'ouvrir à travers ces réflexions aussi?
Alors le point de départ de Vasisdas, c'était donc des personnes aux professions très différentes qui se regroupent maintenant depuis 10 ans, et l'idée c'était plutôt de réfléchir à sortir de nos propres disciplines, en fait, de nourrir nos disciplines grâce au contact régulier à d'autres disciplines, parce qu'on a très souvent le réflexe un petit peu de s'enfermer, et beaucoup en architecture, et l'architecture se nourrit forcément des autres disciplines. Alors plus localement, Vasisdas, à notre agence, ça nous a donné des ailes pour s'ouvrir à d'autres types de commandes, et notamment pour s'autoriser de travailler sur la ville et pas seulement sur du bâtiment, ce que nous faisons actuellement à Strasbourg en imaginant avec l'agence de Christian de Villers l'éco-quartier Danube.
C'est ça, donc plus à l'échelle d'un quartier et pas simplement à l'échelle d'un bâtiment. Ce partage des savoirs, des discussions, des vécus, il est important aussi quand vous travaillez sur des bâtis, des structures qui sont quand même assez spécifiques. Ça a été le cas alors pour l'éco-quartier, on l'imagine, Danube à Strasbourg, mais aussi pour les deux maisons de retraite sur lesquelles vous avez conçu, celle de Ingviller puis Achervillers. Ça a été le cas aussi, on l'imagine, pour la maison d'accueil pour handicapés à Lure que vous avez conçu, pour le gymnase école de Lingolsheim. Tout ça, ce sont des bâtiments où vous êtes allé aussi chercher la parole, le vécu de ceux qui travaillaient avec ces personnes âgées, personnes handicapées qui allaient évoluer ou vivre dedans.
Alors, donc la pratique de l'agence a démarré avec des programmes médico-sociaux, et ces programmes, finalement, d'aborder ces programmes nous a permis d'élaborer presque une manière de travailler un peu différente, assez éloigné finalement de ce qu'on a appris à l'école. Et une des choses importantes dans le médico-social, c'est que c'est souvent pour des personnes en marge, ou ce sont des programmes et qu'on installe aussi en marge des villes. Et il s'agit de réfléchir à comment faire de cette marge plutôt des projets qui fédèrent et donc qui créent du lien social.
On va revenir sur ce projet qui a été à l'origine de cet équerre d'argent que vous avez gagné l'an passé, équerre d'argent 2018. Au projet, c'est un projet qui est au service de qui, de quels usages, comment vous l'avez imaginé?
Le centre de soins s'adresse à des adultes et à des enfants. C'est un centre où on ne reste pas la nuit, c'est un centre de soins, donc on y vient pour une consultation, pour faire des activités, etc. Il y avait une véritable contrainte, c'était de créer un bâtiment unitaire, mais à la fois avec deux unités très dissociées et qui puissent pas s'observer, parce que des enfants qui voient un service de psychiatrie adulte, ça risque de les projeter dans un futur épouvantable. Donc il y avait un grand soin à faire, à porter autour de cette séparation, tout en créant l'unité. Et pour ça, on s'est énormément appuyé sur le paysage.
Et c'est un bâti, une construction qui a pris place dans une ZAC. Oui. C'est pas un grand bâtiment culturel, un musée, une philharmonie. Oui. C'est un centre qui a été récompensé à travers cette équerre d'argent. Dans tout ce qui se passe en ce moment, dans tout ce qu'on se dit tous ensemble aujourd'hui, vous pensez que c'est aussi important que ce type de projet soit pensé et la manière dont il s'ancre dans des territoires soit aussi mise en avant?
Mais je pense même que cette équerre, elle a beaucoup à voir avec cette actualité, en fait. Et peut-être elle vient pas seulement de ça, mais il y a quelque chose quand même qui fait écho avec cette actualité. Et la première chose, c'est que c'est un maître d'ouvrage, donc le centre hospitalier de Jury, un petit centre hospitalier, qui va avoir le courage de faire travailler un artiste qui va avoir le courage de cette architecture et qui va porter ce projet du début jusqu'à la fin, vraiment main dans la main avec nous. Et
pardon. Non, continue.
Oui, excusez-moi. La place de l'art aussi dans ce bâtiment qui est un bâtiment psychiatrique a été une chose très très importante parce que ça peut même devenir un bâtiment visité quelque part dont on peut qui fabrique aussi du lien.
Et de l'art, vous cherchez à en faire entrer dans presque tous les bâtis que vous avez aussi réalisés. On voit ce croisement à la fois des disciplines et des approches. Peut-être bientôt vous vous occuperez de l'acoustique ou de l'atmosphère sonore d'une de ces constructions pensées par Pascal Richter et ses associés Rodolphe Burger. On va écouter un extrait du film Good, le film de Patrick Mario Bernard, qui vous a suivi d'un projet artistique à l'autre, Rodolphe Burger, de Bretagne en Alsace, et qui vous montre en famille, entouré d'Olivier Cadio, de Rachida Brakni, de Charles Berbérian et tant d'autres. Ils sont tous là, Rodolphe Burger. Il y aura des projections de ce film tout au long de l'année, avec des concerts partout en France. Extrait.
Et pourquoi tu penses au bonhomme ?
Parce que il se décrit lui-même. Exactement comme un bonhomme.
Mais c'est là où le bonhomme se distingue complètement. Rousseau, il en fait quelque chose, une sorte de manifeste. Le bonhomme n'explique rien, c'est encore plus horrible.
Attends, dans Rousseau, le juge de Jean-Jacques, donc ça se passe plus tard et explique pourquoi, justement, il a arrêté d'écrire, pourquoi il a, à un moment donné, il s'est mis à écrire, donc justement réfléchir. Et après, il a arrêté pour revenir à copier de la musique. Il a vécu toute sa vie comme copiste, Rousseau. Et donc, il fait la description de quelqu'un qui a renoncé à justement au chemin de la réflexion, de la pensée, du travail de la pensée, etc. Tout ça, c'est vain, ça avoue que ça lui a attiré que des emmerdes. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est très très fort.
Oui. Tu as reçu le truc que je t'ai envoyé aussi, que j'ai envoyé parce que m'a demandé un truc.
Oui, c'est super.
C'était vraiment.
C'est parfait.
Comme je voulais pas parler du bonhomme, j'ai parlé du principe, enfin du dispositif, c'est très très bien. J'ai envoyé à Jean-Luc.
Alors Jean-Luc, je vais l'appeler. Je lui disais, on pourrait, on sait jamais, lui proposer de venir bouffer demain.
Jean-Luc.
Nancy.
Comment ça demain?
T'es pas là demain?
Si.
Demain soir.
Mais il est là.
Il est à Strasbourg.
D'ailleurs.
Et voilà, comme vous, Rodolphe Burger, on a eu l'idée d'appeler Jean-Luc, alors pas pour manger, mais pour venir s'attabler avec nous autour de la grande table. Le philosophe Jean-Luc Nancy va nous rejoindre à partir de 12h55 autour de cette grande table strasbourgeoise. À vos côtés, Rodolphe Burger, et à vos côtés, Pascal Richter, vous restez avec nous, on va reparler aussi du rôle et de la place de l'architecte dans la cité ensemble. On est donc en direct et en public de la librairie de Kléber à Strasbourg, à retrouver donc Jean-Luc Nancy après le journal de Thomas Cluzel.